chair que tu lui as conférée, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût créé. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus du monde, je ne suis plus dans le monde, mais ils vont rester dans le monde, et moi je vais auprès de toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, pour que l'Écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens à toi et je dis ces choses, encore présentes dans le monde, afin qu'ils aient la plénitude de ma joie.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să vorbesc un pic în franceză acum și o să reiau câteva idei la sfârșit în română. Je vais parler maintenant en français et je vais reprendre quelques idées à la fin en roman. Donc, le premier dimanche après l'ascension du Christ, et le dimanche avant la grande fête de Pentecôte, de grandes fêtes de l'Église, qu'on ne peut pas les classifier qui est la plus grande, parce que toutes les grandes fêtes, les 12 grandes fêtes de l'Église orthodoxe, ont la même importance. La naissance du Christ, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, la transfiguration du Seigneur, chaque d'entre eux sont d'une très grande importance pour nous et ont chaque sa valeur très importante. Aujourd'hui, quelques idées. Mon homélie sera un peu plus dogmatique que d'habitude parce que nous nous trouvons aussi dans le dimanche où nous fêtons les pères qui ont participé au premier concile œcuménique, le concile œcuménique qui a établi ce que nous avons aujourd'hui sous le nom de credo, c'est-à-dire un résumé de la foi, de notre foi trinitaire. Et au premier concile œcuménique, ils ont établi la première partie du credo. Donc, tout d'abord, la fête qui est passée, la fête de l'Ascension qui a eu lieu jeudi, ce jeudi, 40 jours après Pâques. Je ne sais pas si vous avez observé, si vous avez remarqué, mais le nombre de 40 est assez présent dans la succession temporelle des offices dans l'Église orthodoxe. Parce que nous parlons de la dogmatique orthodoxe aujourd'hui, et nous parlons des pères des premiers conciles œcuméniques, ceux qui ont établi dans des paroles la réalité de Dieu qui s'est fait homme. Regardons un peu la vie du Christ, la vie de Dieu, vrai Dieu, fils de Dieu, le Christ qui s'est fait homme. Regardons un peu sa vie et vous allez remarquer qu'il y a trois points importants dans sa vie qu'on pourrait appeler mystiquement, on pourrait appeler les trois naissances du Christ, de la nature humaine du Christ. Nous avons tout d'abord la naissance du Christ de la Vierge Marie, qu'on peut appeler la première naissance, mystiquement, mais en même temps une naissance qui était vraie, qui s'est passée vraiment. Une deuxième naissance de la nature humaine du Christ, c'est le baptême du Christ. Et une troisième naissance de la nature humaine du Christ, c'est la résurrection. Et si vous avez remarqué un peu, après chaque fête que j'ai mentionnée, après chaque naissance mystique de la nature humaine du Christ, nous avons une période de 40 jours après laquelle s'est passé quelque chose. Prenez la naissance du Christ et vous allez voir qu'après 40 jours, le Christ est présenté au temple. Prenez la deuxième naissance mystique du Christ, c'est-à-dire du Christ, de la nature humaine du Christ. Le baptême, et vous allez qu'après 40 jours, il y a eu, si vous lisez l'Évangile, la tentation du Christ dans le désert par le diable, un épisode que vous, sans doute, vous connaissez tous. Et prenez la troisième naissance mystique de la nature humaine du Christ, la résurrection, et vous allez voir qu'après 40 jours se passe l'ascension du Christ, l'ascension où il entre dans les cieux avec la nature humaine, ressuscite avec lui comme homme ressuscité, mais comme Dieu d'avant tous les siècles. Donc voilà trois étapes qui ont été nécessaires dans cette incarnation de Christ et qui ont été nécessaires pour le salut de l'homme. Nous témoignons donc que le Christ, il s'est fait homme. Et voilà qu'est-ce que nous disons chaque fois dans le credo, qu'est-ce que nous témoignons chaque fois dans le credo. Je crois en l'unique Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, seul engendré du Père avant tous les siècles, lumière des lumières, vrai Dieu de vrai Dieu. Pourquoi est-ce que j'insiste et je souligne un peu vrai Dieu de vrai Dieu? Parce qu'au premier concile œcuménique, qui a eu lieu en 325, sous la coordination de l'empereur Constantin le Grand et sa mère Hélène, les pères qui se sont réunis là-bas, il avait toute la crème des évêques orthodoxes là-bas, on luttait contre l'hérésie d'un autre prêtre, d'un autre évêque, je ne sais pas si c'était évêque, Arius qui soutenait que Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un vrai Dieu, n'est pas du tout un vrai Dieu, que lui est une créature, quelqu'un qui a été envoyé dans le monde pour sauver l'homme, un brave homme, mais pas du tout Dieu. Et les pères de l'Église, ils se sont réunis, et après qu'ils ont beaucoup, beaucoup discuté du point de vue théologiquement, par l'inspiration du Saint-Esprit, ils sont arrivés à la conclusion, ils sont arrivés à donner aux fidèles cette formule que le Christ est vrai Dieu, Dieu, vrai Dieu des vrais dieux, lumière des lumières. Et il y a une image plastique qui a été utilisée à ce concile par un des pères, quelqu'un qui a pris deux cierges et qui a uni les flammes des cierges. Et vous allez voir qu'il y a la même substance, le feu, mais il y a deux flammes différentes en même temps, qui sont unies en même temps. C'est une image très parlante pour le mystère de Dieu qui s'est fait homme, mais qui reste en même temps Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu. Il n'a pas été créé, disent les pères du premier concile œcuménique. Le Christ, Dieu, n'a pas été créé. Il était engendré, il sort comme le feu sort du feu d'avant tous les siècles, depuis l'éternité. Il n'y a pas un temps, il n'existe pas un temps quand le Fils n'était pas, disent les pères du premier concile œcuménique, parce qu'il existe depuis toujours avec le Père, avec le Saint-Esprit, comme les flammes existent depuis le début de cette image ensemble, en étant en même temps deux réalités différentes. Et par qui tout est advenu, le Fils est reconnu aussi comme le Créateur de l'univers, à côté du Père et à côté du Saint-Esprit. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descendu de cieux, il s'est incarné de l'Esprit-Saint, et de la Vierge Marie, et il est devenu homme. Nous avons ici deux concepts dogmatiques très importants pour l'orthodoxie. Le fait qu'il s'est incarné, qu'il a pris un corps comme le nôtre. Il est devenu homme comme nous. Donc il s'est incarné, le premier concept, et deuxième concept, qu'il est devenu homme. Donc vraiment Dieu et homme en même temps. Le mystère que la pensée humaine ne peut pas pénétrer, ne peut pas affranchir, mais qui est une réalité que le Fils de Dieu est Dieu en même temps et homme en même temps, qui s'est incarné de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie et qui est devenu homme. Un élément très important qui j'insiste à souligner aujourd'hui, je remarquais, mais ce n'est pas moi le premier qui a remarqué ça, il y a beaucoup de pères de l'Église qui ont remarqué ça. Nous avons parfois une tendance piétiste, quiétiste, de dire que l'incarnation de Christ a été faite suite au péché d'Adam. Dans la logique humaine, ça peut paraître logique. Donc l'Adam, il est tombé dans le péché et Dieu a décidé d'envoyer son Fils pour effacer le péché d'Adam. Mais il y a des pères de l'Église qui disent que l'incarnation du Christ, le fait de se faire homme, est indépendante de la chute d'Adam. Et que c'était le mystère depuis toujours pensé par Dieu de se faire homme, même si Adam n'avait pas tombé dans le péché. C'est très intéressant ça. L'amour de Dieu qui sort de lui-même pour s'unir avec l'homme indépendamment du péché de l'homme. Parce que je crois que saint Athanase le Grand dit ça, mais je ne suis pas sûr. Il dit que même si l'homme ne péchait pas, Dieu aurait dû s'incarner. Dieu aurait dû se faire homme par amour pour l'homme. Parce qu'il n'y a pas une nécessité. Si on dit la première variante, que Dieu s'est fait homme parce que Adam est tombé dans le péché, nous osons à soumettre Dieu à une nécessité. Il est obligé de se faire homme par le péché d'Adam. Mais il s'est fait homme pas seulement par le péché d'Adam, aussi pour le péché d'Adam, bien sûr, mais pas le premier motif pour l'incarnation du Christ, pour que Dieu se fasse homme, c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Et même si l'homme ne tombait pas dans le péché, je répète, Dieu aurait pu devenir homme parce qu'il aime beaucoup l'homme, il fait ça par l'amour pour les hommes. Donc voilà la première idée que j'ai voulu souligner dans mon homélie. Regardez cet intervalle de 40 jours qui sont successifs après chaque événement important de la vie de l'homme, du Christ. Retenez cette partie du credo qui mentionne, qui insiste sur la divinité du Christ, fait homme par le Saint-Esprit et par la Vierge Marie, mais qui reste en même temps vrai Dieu des vrais dieux et vraie lumière des vraies lumières. Retenez l'image de cierges qui sont réunis et qui donnent deux flammes, qui donnent une seule flamme, qui sont une image de la foi trinitaire. Et maintenant, j'ai préparé deux prières à vous lire, deux prières qui parlent aussi de la descendance du Christ, de son œuvre de salut en tant que Dieu. Tout d'abord, l'icône, la prière que nous lisons devant l'icône du Christ, chaque fois que nous entrons dans l'Église, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais sachez, ici je fais une petite parenthèse, sachez que quand on se prosterne devant les églises, et j'ai vu ça dans l'Église grecque, chez les Romains ça n'existe plus malheureusement, mais chez les Grecs, même les petits-enfants, ils connaissent les prières qu'il faut le lire, qu'il faut le dire devant toutes les icônes. Ils connaissent la prière de la résurrection devant l'icône de la résurrection. Ils connaissent la prière devant l'icône du Christ. Ils connaissent la prière devant l'icône de la fête de la paroisse. Ils comptent, dans notre cas, la protection de la Mère de Dieu. Ils connaissent la prière qu'on la lit devant l'icône de la Mère de Dieu quand on se prosterne. Ils connaissent, je répète, même les petits-enfants, ils connaissent les prières qu'on lit pour les saints qui sont représentés là-bas, dans notre cas, Saint Grégoire Palamas et Saint Antoine le Grand. Elles se trouvent dans les livres des prières, vous allez les trouver. Donc c'est bien d'apprendre par cœur, je vous ai dit plusieurs fois, essayez d'apprendre des prières par cœur, des prières par cœur, de ne pas inventer vous-même des prières quand vous êtes devant l'icône, mais de savoir déjà une prière, deux prières, trois prières, pour avoir de quoi vous arracher et vous prier vraiment avec les paroles du Père. Donc, il y a encore une chose, une fois que la liturgie ou un office est commencé, on ne se prosterne plus devant les icônes. On se prosterne avant que l'office commence, mais après que l'office a commencé, on ne se prosterne plus parce que ça dérange un peu la liturgie ou les vêpres ou les matines. Si vous êtes arrivé après le commencement de la divine liturgie, vous vous rangez à votre place, vous ne vous prosternez plus devant les icônes et vous allez faire ça à la fin de la liturgie pour pas faire un aller-retour sans cesse dans l'église. Donc, la prière devant l'icône du Christ. Écoutez, nous vénérons ton icône immaculée, ô très bon, demandant le pardon de nos fautes au Christ Dieu. Et ici, c'est la partie qui m'intéresse. Car c'est de plein gré qu'il t'a plu de monter sur la croix dans ta chair, pour libérer de la servitude de l'ennemi ceux que tu avais façonnés. Nous avons ici les deux aspects. Le Christ s'est incarné, il est monté sur la croix de bon gré, de plein gré, de plein gré. Et ça nous amène à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il s'est incarné indépendamment du péché d'Adam. Il est devenu homme indépendamment du péché d'Adam. Il est devenu homme aussi pour sauver l'homme du péché d'Adam. Mais ce n'est pas le premier motif. Son premier motif, c'est l'amour de Dieu de rencontrer l'homme et d'assumer la nature humaine. Voilà. Car c'est de plein gré qu'il t'a plu de monter sur la croix dans ta chair pour libérer de la servitude de l'ennemi ceux que tu avais façonnés. Aussi, dans l'action de grâce, nous te crions, ô notre Sauveur, tu as rempli de joie l'univers en venant sauver le monde. Quelle beauté dans cette prière. Tu as rempli de joie l'univers. Tu as rempli de joie l'univers en venant sauver le monde. Une autre prière que nous utilisons à la divine liturgie cette fois et qui peut-être vous est connue est la prière que nous lisons pendant la liturgie, avant la sanctification des dons. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Tu es saint en vérité, notre Dieu. Tu es parfaitement saint. Il n'y a pas de mesure à la manifestance de ta sainteté. Tu es sanctifié en toutes tes œuvres, Seigneur, car en toutes choses tu as agi envers nous avec justice et selon un jugement véritable. Et d'ici commence la partie qui nous intéresse. Ayant façonné l'homme en prenant de la poussière de la terre, tu l'honoras de ta propre image, ô Dieu, et tu l'installas dans le paradis du délice. Voyez un peu le plan initial de Dieu. Il donne à l'homme l'image de son créateur. L'homme est honoré dans le paradis, à la création, avec l'image de son créateur. Et dans cette perspective, nous comprenons que l'incarnation de Christ avait comme base l'image de Dieu qui est présente en homme. C'est une image très forte pour nous, les orthodoxes, ça. Et donc, tu l'installas dans le paradis des délices, lui promettant, s'il gardait tes commandements, la vie immortelle et la jouissance des biens éternels. Mais à toi, le Dieu véritable qu'il avait créé, il refusa d'obéir et, trompé par la ruse du serpent, fut mis à mort par ses propres transgressions. Mais d'ici commence le mémorial de toute l'histoire de l'humanité, l'histoire déchue de l'humanité. Mais si on s'arrête au moment de la création, nous comprenons bien comme l'homme a été honoré par son Dieu. La Sainte Trinité, elle a été honorée avec l'image de son Créateur. Nous tous, chrétiens ou non, orthodoxes ou non, nous portons en nous le sceau de l'image de notre Créateur. Nous portons en nous l'image de notre vrai Dieu et vrai Créateur. Et ça, c'est très réjouissant pour nous. C'est très réjouissant pour nous de savoir que notre Créateur nous a honorés avec cette image. Mais bien sûr, ça implique notre responsabilité, parce que nous sommes obligés de travailler cette image. Nous sommes obligés de nous élever à l'auteur de l'image de notre Créateur qui est présent à nous, parce que sinon on va gâcher le don, et nous-mêmes, comme dit la prière, nous-mêmes, nous allons nous soumettre nous-mêmes à la mort par nos propres transgressions. C'est ici le clé, si vous voulez, de l'existence de l'enfer. Nous-mêmes, nous voulons nous écarter de notre image du Créateur qui est présent en nous. Ce n'est pas Dieu qui désire la mort du pécheur, pas du tout. Même dans l'Évangile, vous allez trouver ça, que Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais c'est nous-mêmes qui gâchons l'image de notre Créateur qui est présent en nous, et par nos propres transgressions, nous nous soumettons nous-mêmes à la mort. Voilà donc les trois idées principales que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, parce que c'est important de savoir quelle est la vraie foi et comment se rapporter à cette vraie foi. Déjà, le nom de l'orthodoxie, ça signifie la bonne opinion, la bonne foi, la droite opinion, si vous voulez. Mais la droite opinion ne consiste pas seulement dans un flambeau que nous portons, nous sommes des orthodoxes, et c'est pour ça que c'est, notre foi, c'est vrai. La foi que nous témoignons, c'est la foi inspirée par le Saint-Esprit. Et nous devons commencer à découvrir ça. Ce que nous croyons dans l'Église orthodoxe n'est pas une invention humaine. Premier concile œcuménique, il dit très clair, c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Et cette foi, vraie foi, donne la qualité de vie chrétienne. Par exemple, ceux qui sont devenus orthodoxes. On ne devient pas orthodoxe parce que on est tombé amoureux de la beauté de la musique, de la beauté de l'icône, de la beauté des prières orthodoxes. On devient orthodoxe parce qu'on sent qu'on est chez nous. Qu'est-ce que signifie cette chez nous ? Cette chez nous signifie que qu'est-ce que je crois m'est très familière. Pourquoi ? Parce que c'est imprimé en moi. Parce que moi je découvre par ma foi l'image du Créateur qui est présente en moi. C'est ici un des points très importants sur lequel peut être fondée votre foi. Que vous trouvez la familiarité de Dieu en vous par la foi que vous confessez. C'est très important. Une fois que votre foi déraille de cette familiarité, vous pouvez vous sentir bien, mais il n'y a plus cette familiarité avec Dieu qui peut s'installer comme chez lui dans votre âme. Une fois que la foi devient une autre foi, pas inspirée, pas divine, d'inspiration divine, ça peut être très bien au niveau humain, une qualité humaine extraordinaire, mais pas divine. Une fois que vous retrouvez, et il y a pas mal de témoignages des hommes qui sont devenus orthodoxes et qui ont dit ça, j'ai trouvé un chez moi dans l'orthodoxie, quelque chose, un chez moi. malgré toutes les choses qui ne sont pas parfaites dans l'Église orthodoxe, j'ai trouvé un chez moi. Et de ce chez moi sortent les autres. La musique byzantine, par exemple, l'icône, la prière du cœur, les écrits des pères, toute la richesse de l'orthodoxie part d'ici, d'un chez moi, qui est imprégné, qui est vraiment présent dans chaque élément de notre nature humaine. Parce que c'est le Christ qui s'est incarné et qui est devenu homme et qui nous a mis à la disposition cette voie royale de découvrir en lui les lois de l'amour, les lois de la vraie foi. Donc attention, attention, il y a un grand enjeu quand on parle de la foi. Parfois, nous on glisse, et je sens moi-même aussi, on glisse, oui, on est tous chrétiens, on est tous ensemble. C'est une foi l'amour entre les chrétiens. On est obligé d'aimer tous, chrétiens ou pas, n'importe pas. Mais au niveau de la foi, on est obligé de dire la vérité. C'est une chose, l'amour pour le prochain, c'est une autre chose, la foi. Je répète, pas parce que c'est une tradition que nous héritions, mais parce que c'est la chose naturelle qui est inscrite en nous. Et une fois que nous glissons de la vraie foi, nous allons sentir que les choses vont dérailler à cause du fait que nous nous écartons de la délicatesse de Dieu qui a imprimé, qui a gravé en nous des choses qui sont vraies. Et la vraie connaissance, comme dit l'évangile d'aujourd'hui, c'est de connaître toi, le seul Dieu véritable, de te connaître, de connaître. C'est ça notre foi, de connaître d'en plus. Les pères, c'est ça qu'ils ont fait, ils n'ont pas donné des lois. Voilà, vrai Dieu, de vrai Dieu. Ça, toutes les sentences que nous avons dans le credo sont sorties de la connaissance et de la relation directe avec Dieu, qui est la unique base pour une vraie théologie, dit Saint Grégoire Palamas. La vraie théologie s'est faite suite à l'union avec Dieu. La vraie base pour une vraie théologie, c'est l'union avec Dieu. Tu t'unis avec Dieu, tu peux faire la théologie. Tu n'es pas en union avec Dieu, tu peux parler de n'importe pas quoi, tu ne vas pas être dans la vérité. Une fois que tu es uni avec Dieu et que tu vas gagner cette familiarité homme-Dieu, tu vas pouvoir faire la théologie. Et ça sera une vraie théologie. Ce sera une théologie qui va être fondée sur la vérité. Parce que vous pouvez me demander maintenant, mais pourquoi est-ce que tu sais que ta foi est la vraie foi? Parce que je sais que les gens, les pères qui ont bâti cette théologie, ils ont été une union directe, pas intermédiaire, et très étroite avec Dieu. Union. Et nous témoignons ça, que toute la théologie orthodoxe est sortie de la vie d'union avec Dieu et de l'inspiration du Saint-Esprit. C'est un témoignage. Et c'est une chose qui ne peut pas être prouvée par les paroles, toujours. On ne peut pas prouver ça à quelqu'un qui ne croit pas. Ça se découvre. Ça se découvre en entrant dans toi-même, en l'union avec Dieu. Tu vas voir qu'il n'y a pas des autres variantes. Tu vas voir qu'il y a un seul chez moi. Un seul chez moi. Il n'y a pas plusieurs chez moi. Il y a une seule variante de regarder les choses qui est la plus saine et la plus claire. Voilà comme les discussions avaient lieu au IVe siècle. C'est comme ça, il y a une histoire qui dit que même les chrétiens dans les marchés publics, ils parlaient de ça. Les chrétiens dans les marchés publics, ils allaient acheter du légumes, je ne sais pas quoi, de la viande, ils parlaient entre eux des choses dogmatiques, parce que ça leur suscitait la foi, ça leur faisait plaisir de savoir comment leur foi est fondée sur des vérités, pas sur des concepts humains, pas sur des concepts humains, mais sur des vérités qui sont sorties d'une expérience personnelle, je répète, avec Dieu. Imaginez-vous Vous-même, allez au marché et discutez avec votre famille de la divinité du Christ, de la divinité du Saint-Esprit, par exemple, de la divinité, de la naissance virginale de la Mère des Dieux. Comment c'est beau ça, de mettre notre foi comme premier aspect de notre vie. Parce que, même un peu inconscient, vous faites ça chaque jour. Le matin, quand vous vous levez, vous êtes on le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même comme ça, vous témoignez votre foi trinitaire. Même chaque matin, quand vous soulevez du lit, vous dites ça, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La foi trinitaire est imprégnée dans votre vie, dans vos vies. Toujours, vous témoignez ça. Consciemment, inconsciemment, ça c'est présent. Pourquoi? Parce que c'est familier. Ça sort d'une familiarité ontologique, si vous voulez, pour utiliser des grands mots, des grandes paroles. Une familiarité ontologique qui est imprimée par le sceau du Saint-Esprit, par le sceau de la grâce, par le sceau de la Sainte Trinité. Je m'arrête ici, prions les pères qui ont participé au premier concile œcuménique de prier à leur tour le Dieu incarné, le Dieu fait homme, le Christ notre Dieu, pour illuminer nos pensées et pour nous donner le goût pour la vraie théologie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...